Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre émission consacrée à l'économie et à la finance, avec une semaine à Marrakech importante, avec les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, une grande étape pour le Royaume du Maroc. À cette occasion, le roi du Maroc, le souverain, a adressé un message aux participants de ces assemblées, dans lequel le souverain a assuré, je le cite, qu'aujourd'hui, la fragmentation géoéconomique et la montée du souverainisme, animée en partie par la volonté de rééquilibrage des rapports de force économique et politique au niveau mondial, compromettent les avancées notables que le multilatéralisme avait permis de réaliser au cours des dernières décennies. Fin de citation, revenons à ce que furent ces journées importantes à Marrakech et peut-être même aussi voir ce qu'est la relation que le Royaume du Maroc entretien avec ces deux institutions que sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. C'est vrai que c'est une semaine qui était importante parce que ça permettait de voir, de sentir, ressentir ce qu'est la nature de cette relation. On pose la question à notre invité du jour, Oudéi Famzian, économiste universitaire qui connaît parfaitement bien la vie économique du Royaume, ainsi que ses relations entre, d'une part, Rabat et d'autre part, le FMI et la Banque mondiale. Quel est votre ressenti sur ce point, Oudéi Famzian ?
Pour ce qui concerne les relations entre le Maroc, la Banque mondiale et le FMI, il faut rappeler, pour ce qui concerne d'abord la Banque mondiale, nous avons un partenariat, faut-il le rappeler, de très longue date. Cette année marque 65 ans de partenariat. La Banque mondiale et le Maroc se sont engagés ensemble dans de nombreux domaines importants. Ce partenariat est aussi diversifié. Le Maroc, par exemple, se démarque par sa démarche ascendante et il a bénéficié de l'apport et de l'aide de la Banque mondiale pour asseoir un certain nombre de politiques, notamment dans les zones rurales, dans les zones communautés, municipalités qui sont en difficulté. Faut-il le rappeler que ne serait-ce que cette année, le Conseil d'administration de la Banque mondiale a approuvé deux prêts, un prêt de 450 millions de dollars dans le cadre de mécanismes de programme pour les résultats afin d'aider le gouvernement à mettre en une réforme sur la santé, dans le domaine de la santé, et un autre programme axé sur le résultat de 350 millions pour soutenir le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme d'approvisionnement en eau potable. Alors maintenant, concernant le FMI, le Maroc, faut-il le rappeler, a adhéré au FMI depuis le 25 avril 58 et depuis, les relations se sont énormément développées. Le Maroc est soumis, faut-il le rappeler, à un suivi régulier de son économie à travers des missions de celle-ci, du FMI sur place, qui sont réalisées par les ECOR, les équipes du fonds, et qui, c'est à travers ces missions, la banque, le FMI, il permet un échange de vues avec le gouvernement et puis des conseils qui sont donnés pour rectifier les politiques s'il y a lieu. La dernière information que je peux donner, c'est qu'il a approuvé, le FMI a approuvé une ligne de crédit modulable cette année de 5 milliards de dollars. C'était le seul pays en Afrique qui a pu bénéficier de ce crédit de précaution. Et ensuite, je dirais aussi que récemment, lors de cette semaine, on a appris qu'un prêt supplémentaire d'environ 1,3 milliard de dirhams vient d'être accordé par le FMI au Maroc et étalé sur 18 mois, ce prêt qui vise essentiellement à aider le Maroc à renforcer ses capacités de résistance face au changement climatique, notamment, et aux catastrophes naturelles, comme d'ailleurs s'est passé avec le tremblement de terre du Haouz. Voilà donc, grosso modo, quelques éléments sur ces relations entre le Maroc et les institutions financières internationales.
Justement, parce qu'en fait, il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés tout au long de cette semaine. On ne peut pas tous les évoquer ici parce que le temps, un certain temps, nous est imparti. Mais vous, Oudéi Famzian, vous êtes professeur, donc vous avez été grand professeur d'économie. Vous connaissez parfaitement bien ce qu'est l'économie, à la fois du Maroc, mais du Maghreb aussi, de l'espace euro-méditerranéen. Quels sont les points qui ont retenu votre attention? Qu'est-ce qui vous a intéressé?
Il faut noter que cet événement met l'accent sur un certain nombre de problèmes que connaît le continent africain. Ce continent qui est passé par des événements tragique. L'impact du Covid sur le monde entier était là très très présent, et encore plus sur l'Afrique. Ce qui fait, c'est un continent qui connaît des conflits dans certaines régions, et c'est un continent qui connaît des pénuries importantes. Et donc ça, c'est l'existant, la réalité, l'endettement aussi, le surendettement d'un certain nombre de pays qui est là et qui grève les moyens et la capacité de ces pays à faire face aux défis qui sont discutés pendant cette semaine à Marrakech lors de ces assemblées, sont d'abord l'impact de l'intelligence artificielle, le changement climatique et les conflits politiques que connaissent les pays des différents continents, et plus particulièrement de l'Afrique, parce que nous sommes à Marrakech et le Maroc est considéré comme un relais important entre le Nord et le Sud. Pourquoi les changements climatiques, pourquoi les conflits politiques, parce qu'il faut savoir que, et pourquoi l'intelligence artificielle, cette dernière, va éliminer des emplois et donc mettre les gens en situation de chômage, et il faut donc y faire face, il faut penser à des solutions à ces problématiques, et il faut s'adapter. Pour ce qui concerne les problématiques de changement climatique, nous devons nous adapter aussi, Il faut disposer de moyens. Les pays africains sont volontaires. Le problématique, c'est qu'ils sont surendettés pour un certain nombre. Et donc, ils auront du mal à pouvoir suivre les politiques qui sont tracées par ces institutions, par les pays du Nord, pour justement faire face à ces changements climatiques et des désastres qui s'en suivent. Donc voilà, tout cela, ce sont des discussions qui
sont importantes. C'est important parce que je vais me permettre de poser une question un peu naïve, mais ces grandes assemblées, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce qu'il s'y dit vraiment des choses? Est-ce qu'il y a vraiment des échanges qui sont... Parce que c'est vrai que souvent, on peut se poser la question, c'est pas une question méchante, c'est juste une question bienveillante, mais on se dit, mais finalement, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que qu'il y ait ces grands lieux de rencontres? Expliquez-nous ça, Oudaïfa Mziane.
Bah, écoutez, ces rencontres qui se tiennent cette fois-ci à Marrakech, mais qui sont régulièrement organisées, voient la présence de 180 pays à travers des représentants des institutions financières. Notamment, c'est l'occasion de ces pays d'organiser des forums, d'échanger des points de vue, d'exposer leurs problèmes. Et c'est aussi l'occasion donnée pour établir des partenariats entre les différents pays, avec ces institutions pour des financements éventuels de projets. Donc je crois que ce forum, c'est un lieu, c'est un moment important d'échange, de débat et de bonnes pratiques, j'allais dire, et oui. Puis de faire prendre conscience à des institutions qu'ils ne peuvent pas se comporter de la même manière lorsqu'il s'agit d'un pays du Nord ou d'un pays du Sud.
Qu'est-ce que ça sous-entend, ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez, peut-être préciser votre pensée, Oudaïfa Mziane. Ça sous-entend quoi, ce que vous dites là? Dites-nous.
Écoutez, par exemple, la dette. Si je parle de la dette, nous savons que la crise de la dette de certains pays africains est très importante. La dette publique en Afrique subsaharienne, actuellement, elle atteint quelque 70 à 80% du PIB de ces pays. Oui. Et donc, parmi ces pays, énormément sont en surendettement. Par exemple, le Ghana, la Zambie, le Malawi, le Tchad. Donc, cela suggère qu'il y a un problème de viabilité de la dette et que le comportement de ces institutions vis-à-vis de ces pays surendettés, si on veut les mettre sur les rails de la croissance économique, doit prendre en considération ces difficultés que connaissent ces pays. Donc, pourquoi pas ne pas envisager
des effacements,
des rééchelonnements de la dette, des tarifs préférentiels, parce que aussi le service de la dette pour un certain nombre de pays est insupportable.
Bien sûr.
Et donc, ils sont dans des situations budgétaires très compliquées qui ne leur permettent pas de mettre ou de mener des politiques publiques de résilience aux problématiques climatiques, aux problématiques de la famine, des crises alimentaires,
bien
etc.
Sûr.
Donc, c'est très important. Et le rôle de ces institutions, en définitive, c'est de mettre des moyens pour aider ces pays, justement, à s'en sortir. Et donc, mais il ne faut pas que les conditions d'octroi de ces crédits soient exorbitantes, auquel cas, ces pays ne pourraient pas s'endetter outre mesure.
Mais voilà. est-ce que ça ne vous pique pas les oreilles quand, parce que vous êtes vous-même professeur d'économie. Donc, si on vous dit oui, mais alors si on contracte des prêts qu'on rembourse plus, très sincèrement, en tant que citoyen lambda qui va aller à la banque et qui va être obligé de rembourser son crédit pour acheter sa voiture, par exemple, sachant qu'on va me tirer les oreilles si je suis en retard, que je vais payer des ajouts, etc., etc., est-ce qu'on risquerait pas d'embrasser un cercle non vertueux si demain il y avait trop de largesse qui était accordée par le FMI, la Banque mondiale ou autre sur le remboursement des dettes. Oui, parce que c'est quand même c'est un des fondements de l'économie mondiale.
Oui, tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est que maintenant, ces pays sont des difficultés qui ne sont pas des difficultés dues simplement à la mauvaise gestion de leur leadership. C'est surtout parce qu'il y a eu des événements mondiaux qui ont un petit peu bouleversé la donne. Je pense notamment au problème du Covid, de la pandémie, de ses répercussions néfastes sur les chaînes de valeur, sur la circulation des matières premières. Je pense notamment aussi aux méfaits de la guerre de l'Ukraine et de la Russie qui a touché effectivement la problématique de circulation des céréales, de la production. Nous savons que l'Ukraine, par exemple, la Russie contribue beaucoup dans dans tout ce qui est alimentaire et par conséquent, donc tous ces événements qui se sont ajoutés aux difficultés de gestion que connaissent ces pays ont asphyxié un peu les économies. Alors maintenant, le rôle de ces institutions, ce n'est pas justement d'asseoir une politique d'endettement et d'aggraver l'endettement. Au contraire, c'est d'aider ces pays avec, évidemment, nous savons que le FMI, il a un rôle d'accompagnement.
Oui, d'accompagnement. Mais
il dicte même des politiques à suivre.
Oui, mais justement, parce que il n'est pas faire injure au FMI que de rappeler que de temps en temps, les conseils parfois insistants du FMI, de ces hommes et de ces femmes qui vont dans les pays en souffrance pour aider, mais qui réclament des réformes structurelles souvent extrêmement profondes. C'est vrai que les relations sont parfois un peu difficiles. Enfin, vous en convenez.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, justement, et c'est là où l'intérêt de l'organisation de cette manifestation au Maroc, parce que le Maroc a subi toutes ces pressions, notamment du FMI, depuis le programme d'ajustement structurel qui a eu des implications néfastes sur l'aspect social de l'économie, sur les secteurs sociaux. Mais on a quand même on a passé le cap et nous avons retenu la leçon. Et puis depuis, le Maroc, en collaboration avec ses organismes internationaux, a pu sortir de cette zone rouge et puis enclencher un processus de rétablissement de son économie, et en adoptant depuis trois ans donc le nouveau modèle de développement qui est devenu un modèle inclusif et donné en exemple. Maintenant, la tenue, d'ailleurs, la première journée de cette rencontre qui a lieu le lundi a présenté le livre blanc sur le Maroc en quête d'une croissance plus forte et plus inclusive. Le Maroc est donné en exemple comme pays qui a su justement se servir des erreurs qui ont été commises et puis de enclencher un processus de développement avec des outils de management public. Avec l'aide de ces institutions, le Maroc est un pays endetté aussi.
Oui, bien sûr. Mais enfin, qui ne l'est pas, qui ne l'est pas.
Et utilisé à des fins à bon escient, qui a permis au Maroc de enclencher un processus de développement inclusif dans tous les pans de l'économie et qui est donné actuellement en exemple malgré les soubresauts qu'il a connus, notamment le dernier qui est le séisme le Maroc a montré par exemple une exemplarité dans la gestion de cette crise. Et la preuve, en un mois pratiquement, tout a été mis sur les rails. Les écoles, les écoliers de ces régions touchées ont commencé à prendre leur cours, peut-être pas dans les conditions 100% oui, idéales, mais en tout cas, on a subvenu à leurs besoins. Une politique d'aide à ces familles qui ont été touchées par ce séisme a été enclenchée. Ce mois-ci, ils ont commencé à toucher une indemnité. Les aides qui ont été données à ces pays, à ces personnes, oui. À ces familles qui ont été touchées pour reconstruire leur maison, leur demeure, etc. L'aide que a promis le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, pour justement remettre à niveau les infrastructures, les routes, etc. Donc tout cela montre que lorsque nous avons une politique, une vision, et le Maroc a une vision stratégique à long terme, eh bien ces institutions, lorsqu'elles injectent de l'argent, le retour sur investissement est forcément positif.
Parce que en fait l'un des éléments va-t-on dire, qui est fondateur d'un prêt, c'est quand même la confiance, c'est-à-dire la conviction qu'une institution monétaire, financière, économique internationale peut avoir en un État ses rouages, son exécutif, ses relais dans les provinces, éloignées, pas éloignées, les centres-villes, les centres urbains, les centres périurbains, etc. Et cette notion de confiance, elle est extrêmement difficile et extrêmement longue à acquérir. Et puis on sait que la confiance, par définition, mais ça c'est pas propre à l'économie ni à la politique, la confiance ça peut partir d'un claquement de doigts. C'est quand même un exercice qui est extrêmement difficile pour réussir à instaurer une confiance, c'est pas facile.
Bah écoutez, absolument, vous avez tout à fait raison. La confiance est un élément central dans le développement des relations entre ces institutions et ces pays, les donateurs et les pays qui ont bénéficiaires. Et cette confiance, ça se construit. Alors, nous avons, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que dans une certaine mesure, le Maroc constitue un exemple pour de nombreuses économies en développement, parce que le Maroc jouit d'une stabilité. Cette stabilité, elle est méritée. Hein. C'est une clairvoyance dans les politiques publiques qui sont suivies, dans un système de gouvernance performant, et puis sur des ressources humaines et qui sont utilisées à bon escient. Ce n'est pas par hasard que les investissements étrangers se rouvrent vers le Maroc. Ce n'est pas par hasard parce que le Maroc constitue une terre d'accueil. Le Maroc a ciblé depuis l'avènement du règne du roi Mohamed VI sur les infrastructures, sur construire les conditions de réussite d'un investissement sur son sol. La charte d'investissement qui a été adoptée quelques années est encourageante pour les capitaux étrangers pour venir s'installer. Beaucoup je ne vais pas nommer, mais beaucoup de multinationales, notamment françaises, sont là et ne font que accroître leur production. Et le Maroc en bénéficie forcément, non seulement sur le plan fiscal, mais aussi sur le plan des ressources humaines, de la formation,
c'est important.
Le chômage. Tout cela fait que, justement, ce sont des politiques économiques qui sont menées qui rendent cette confiance plausible et durable et qui entretiennent justement cette relation positive entre ces institutions et les pays africains. Et le Maroc devrait être un exemple et un relais pour ces pays-là. Et il fait tout son possible d'ailleurs pour justement développer des relations avec l'Afrique et aider
Et c'est pour ça aussi que c'est important que ça se passe bien à Marrakech, parce que ça, en fait, c'est des éléments, on va dire, de contexte qui font que ça se passe bien, c'est fluide, les relations se font, il y a une espèce de complémentarité qui s'instaure et les gens se voient, ils se parlent, etc. Donc c'est vraiment effectivement très important. Question de prospective économique, mais en quelques mots, parce qu'on sait que c'est un sujet qui tient à cœur de tout le monde, et vous-même et nous, on est tous accrochés à cette fameuse inflation. Alors je sais que c'est pas le sujet sur le FMI, la Banque mondiale, mais juste d'un mot, Deif Abzian, vu que vous avez l'œil sur le Maroc, l'économie marocaine, juste dites-nous quelques mots sur l'inflation au Maroc. Est-ce qu'on va réussir à en venir à bout en cette fin d'année 2023-2024? Donnez-nous quelques mots d'espoir, s'il vous plaît.
Mais écoutez, ce n'est pas.
Mais la vérité aussi. Voilà. Oui, c'est ça.
Ce n'est pas une étude que j'ai faite personnellement. Oui, oui. Mais en regardant, en lisant un peu à gauche, à droite, je sais que, par exemple, le Fonds monétaire international, qui est une institution crédible et respectable, et dont les statistiques qu'elle produit de temps à autre sont basées sur des études de terrain. Le Fonds monétaire international a indiqué d'ailleurs que la croissance de l'économie marocaine, qui s'établissait à quelque 1,3 en 2022, est en train de s'améliorer. En 2023, elle s'établira à 2,4% et il est attendu qu'en 2024, elle puisse s'établir à 2,6%. Alors, pour ce qui concerne l'inflation aussi, je crois que avec les politiques qui sont suivies au niveau national, elles commencent à être maîtrisées. On commence à voir un peu la lumière, j'allais dire. L'inflation tournait autour de quelques 7% en 2022, mais avec les politiques qui sont menées, je ne dirais pas d'austérité, mais de clairvoyance,
oui, bien sûr,
par le gouvernement marocain, cette inflation va s'établir, d'après les statistiques de la FMI, toujours à 6,1%, donc baissée de 0,9 points, et il est attendu qu'elle revienne un peu aux normes avant Covid, à 3,3-3,5 en 2024.
Ce qui serait bien.
Donc, tout cela démontre que toutes les politiques qui sont suivies, l'aide et l'accompagnement de ces institutions, pour le Maroc du moins en tout cas, commencent à donner leurs fruits et expliquent cette dynamique dans laquelle le Maroc est rentré depuis maintenant 2 ans.
Merci Oudaïfa Amziane, c'est toujours un plaisir de vous entendre, notamment sur cette semaine tout à fait importantes, durant lesquelles il y a eu beaucoup de déclarations qui ont été faites des acteurs de la vie économique nationale, internationale, et notamment ces propos de Djihad Azour, qui est le directeur du département FMI Moyen-Orient et Asie centrale, qui a présenté à notre envoyé spécial Antoine Casalta, qui était sur place, qui nous a permis de vivre l'événement. Il nous a présenté ce qu'étaient ces perspectives économiques régionales. On retrouve à Marrakech Antoine Casalta.
Pendant cette intervention, Djihad Azour a appelé les États à intégrer leurs politiques économiques et à les faire avancer de concert avec leurs politiques financières. À ce sujet, le directeur régional du FMI a salué les actions du Maroc.
En ce qui concerne la politique monétaire, le Royaume a réussi à coordonner ses politiques, en particulier dans la réduction de l'inflation. Au cours des dernières années, malgré les chocs récurrents tels que le Covid-19, la guerre en Ukraine et la hausse des prix, la Banque centrale du Maroc et les autorités financières ont réussi à améliorer la situation monétaire et financière.
Néanmoins, il faut que le Maroc poursuive ses efforts car l'inflation, bien qu'en baisse, reste importante et a des répercussions négatives sur le pouvoir d'achat des plus pauvres. De la même manière, la capacité de résilience du pays doit être améliorée en renforçant les marges de manœuvre budgétaires des institutions pour faire face aux chocs. Par ailleurs, les conséquences du tremblement de terre d'El Haouz n'ont pas encore été prises en compte dans les projections du FMI, mais Djihad Azour l'assure, de nouvelles prévisions seront bientôt publié par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale en collaboration avec les autorités marocaines. À Marrakech, Antoine Casalta pour Médias.
Voilà donc pour les prévisions. Maintenant, c'est vrai aussi que des propos ont été tenus, des rapports ont été annoncés, publiés, rendus publics, notamment sur l'état des inégalités dans la zone MENA, Proche-Orient, Afrique du Nord. Inégalités croissantes depuis la crise du Covid et qui sont amplifiées par l'inflation que l'on sait galopante. Inégalités aussi accentuées par le fossé qui sépare les femmes et les hommes dans certaines de nos sociétés. Je vous propose d'écouter à ce sujet Miliad Alouen, qui est chargée de programme à l'ONG britannique Oxfam.
Elles sont au premier front de toutes ces inégalités. Ce sont les premières victimes de toute politique d'austérité ou autre. Les femmes payent de leur temps dans le travail de soins non rémunéré en raison de l'inaccessibilité aux services publics. Le fait d'être dans le travail de soins non rémunéré les empêche d'accéder aux opportunités d'emploi. Nous avons constaté cette année qu'il y a eu une baisse encore en termes du taux d'activité des femmes au Maroc ou du taux d'accès des femmes au marché de l'emploi. On était à 19% l'année dernière. Pendant le premier trimestre de cette année, on est descendu à 18%. Donc, ce sont les femmes qui souffrent le plus d'inégalités. En plus des inégalités économiques, il y a aussi les inégalités sociales qui font que les femmes sont confinées à un espace privé, à la sphère privée, les empêchant ainsi de s'émanciper, d'avoir accès aux opportunités économiques.
Voilà, c'est sur ces éléments qui nous ont permis de revivre cette semaine à Marrakech et puis aussi de l'analyser avec Deïfa Amzian, que s'achève cette nouvelle édition d'Economia. Je vous souhaite à tous une excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.